Le ministère terrestre de Jésus avait un centre d'intérêt. Ce centre d'intérêt, c'était les personnes. Il voulait avoir un moment avec eux, prendre du temps avec eux. Dans plusieurs récits des évangiles, nous lisons ces moments. Un moment transformant dans Marc chapitre 1, versets 40 à 45. Un moment tragique dans Marc 10, versets 17 à 22. Un moment terrifiant dans Jean 8, versets 1 à 11. Un moment touchant dans Marc 5, 22 à 34. Un moment larmoyant dans Marc 5, versets 21 à 43. Un moment d'enseignement, oui. Ah oui, les enfants, il faut que je libère les enfants. Voilà, on va libérer les enfants. C'était un moment triste pour eux. Voilà. Pardon, excusez-moi. Dans la lancée. Voilà, on va laisser partir les enfants. Ah, ils commencent à s'inquiéter, les jeunes. Oh là là, il faut écouter le pasteur. Un moment d'enseignement dans Jean 3. Un moment passionnant dans Luc 23, versets 32 à 43. Un moment tendre dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Un moment édifiant dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Dieu a eu ces moments et ils nous sont relatés dans l'Écriture. Parce que Jésus avait deux missions. Dans Luc 19, 10, il est dit que sa première mission, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et vous vous rappelez que la semaine dernière, j'ai posé cette phrase, j'ai dit que la seule chose que Dieu nous demandait à nous pour faire partie des sauvés, c'est d'abord d'être pécheurs. On n'a jamais pensé à ça avant. Il n'est pas venu chercher ceux qui étaient bien. Il n'est pas venu guérir ceux qui étaient en bonne santé. Il est venu toucher ceux qui étaient pécheurs, malades, et qu'ils l'admettaient. Les autres, c'est juste un problème de temps. Ils vont le découvrir. La deuxième mission, c'est que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et il n'y a pas de plus grand amour pour nous que de donner sa vie pour les autres. Voilà la double mission, et voilà pourquoi Dieu a pris tous ces temps, Jésus a pris tous ces temps. Ces moments transformants, tragiques, touchants, larmoyants, parce qu'il voulait toucher son peuple. Dans Marc 1, versets 40 à 45, j'aimerais nous concentrer ce matin sur un moment particulier, un moment transformant. Les témoignages vont dans ce sens, mes amis, où Dieu nous transforme, Dieu nous change, Dieu modifie, il est capable de changer, c'est le seul au monde qui est capable de changer notre ADN. Marc 1, verset 40, un lépreux vint à lui et lui dit, en se mettant à genoux, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ému, il tend la main, le touche et dit je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitte et il était pur. Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt en disant garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre, présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, ce qui sera pour eux un témoignage. Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer très haut et très fort la chose et à répandre la parole, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Un moment transformant. Ce passage se trouve au milieu d'une grande période où le Seigneur est déjà bien occupé. Période de prédication. On nous dit dans les versets 21 à 34 que Jésus a été enseigné d'abord dans la synagogue. Dans les versets 21-22, on nous dit qu'il a été chassé des démons. Dans les versets 23-28, on nous dit qu'il a guéri la belle-mère de Pierre. Dans les versets 29 à 31, c'est le même texte, hein, c'est dans Marc 1. Il a guéri plusieurs malades, débarrassé les possessions démoniaques. Et là, on se dit, ben, il est occupé, Jésus. Il a besoin, on serait tenté de dire qu'il a besoin un peu de repos après une telle frénésie. Toutefois, au verset 35, Jésus est debout au lieu de prière, bien avant la lumière du jour. Et quand ses disciples le rejoignent, il leur dit qu'il est temps d'entrer dans la ville voisine pour y prêcher, afin que le ministère soit au bénéfice de tout le monde. Et c'est là dans son ministère d'enseignement, qu'il est interrompu par un seul homme, un lépreux. Il y a des foules immenses qui attendent des guérisons. Des foules qui ont appris, qui ont écouté. Mais un homme là, va arrêter Jésus dans son enseignement, dans sa prédication, et va tirer tout l'intérêt sur lui. Mais cet homme, il a le virus Ebola. Cet homme, il a quelque chose en lui que personne ne peut toucher. Il ne doit pas être en public. Il n'est pas admis, reçu. Il est exclu. Il a, le verset 40 nous dit là, lèpre. Sa maladie, c'est sa condition. Il approche Jésus. Pourtant, de toutes les maladies, de toutes les affections qui ont dévasté le monde, c'était celle qui était la plus redoutée. Alors, j'espère que je ne vais pas vous faire peur, mais j'aimerais juste vous donner une brève appréciation de ce que peut être la lèpre, de cette horrible maladie. Elle commence par, tout d'abord, en se sentant fatiguée, sans aucune raison nécessaire. Sensation de fatigue, puis les articulations commencent à devenir sensibles. Et puis cet homme un jour remarque qu'il a quelques taches blanches sur sa peau, que ces taches blanches commencent à durcir et devenir des nodules. Il tourne du blanc au rose, au brun, et puis ça devient écailleux. Et puis ces nodules commencent à se répandre sur tout son corps. Et puis sur le visage. Son visage change d'apparence. Il a des rides. On ne peut plus le regarder. Et puis ses nodules commencent à s'ulcérer. Sont remplis de pus. Commencent à courir partout sur son corps. Une odeur nauséabonde est libérée par l'homme. Une odeur terrible qu'on ne peut pas supporter. Il a même ce goût dans sa bouche. Quand il respire, le bruit de sa respiration n'est plus la même. Donc vous voyez que cette maladie a consommé tout son être. Ses sourcils tombent, ses cheveux tombent, deviennent blancs centimètre par centimètre. Son corps commence à se décomposer. Pendant qu'il marche, il laisse des traces humides par terre parce que son corps rejette l'eau. Ses membres commencent à se détériorer. Éventuellement, ses doigts, ses orteils commencent à tomber. Puis son système nerveux se détériore. Il perd la sensation de douleur. Il pourrait mettre le feu à sa main sans s'en apercevoir. On dit que la longévité maximum de cette maladie pouvait aller jusqu'à 9 ans, avant la mort fatale de cet homme. Mais comme si la maladie n'était pas suffisante, on imagine bien que c'est un isolement total. Un isolement social, relationnel. Il devait être banni du village. Il n'est pas autorisé d'avoir communion avec qui que ce soit. On l'oblige à quitter sa famille, quitter ses amis. On ne doit pas l'approcher à moins de 100 mètres, voire 200 mètres les jours devant, pour être sûr de ne pas être atteint par cette maladie. La famille, lorsqu'il a quitté la maison, avant qu'il ne soit mort, organise un service funèbre, le considérant mort. Waouh ! Vous dites, ah, quelle image ! Mais peut-être quelqu'un est en train de dire, mais Jean-Claude, personne ici n'a la lèpre, rassure-toi ! Pourquoi est-ce qu'on a besoin de connaître cette maladie ? Dans la Bible, la lèpre est bien plus qu'une maladie. C'est un type de péché. Aucune personne dans cette pièce, à ma connaissance, n'a la lèpre. Mais nous sommes tous atteints d'une maladie mortelle. Et cette maladie, ça s'appelle le péché. Et ce péché, s'il n'est pas amené au pied de la croix, mes amis, est mortel. Il nous détériore, il nous prend toutes les parties de notre corps. Oh, ça commence tout petit, un petit point. Mais elle est là. Et c'est pour ça que quand on fait cette description de la lèpre qui prend même notre bouche, l'épître de Jacques, hein, nous dit que de la même bouche sortent la malédiction et la
bénédiction.
C'est pas possible. Le péché a pris possession de tous nos organes. Il y a des métastases partout. Dans Lévitique 13, on nous donne le diagnostic, comment diagnostiquer cette maladie et comment permettre de l'éradiquer. Dans Lévitique 13, 3, la manifestation de l'extérieur du péché sont simplement une fenêtre dans le cœur. Je dirais que la lèpre est bien plus profonde que la peau. Elle va jusqu'à l'os. L'homme n'est pas pécheur parce qu'il pêche. L'homme pêche parce qu'il est pécheur. Ça change ma compréhension du péché, mes amis. Je ne deviens pas pécheur si je pêche. Je pêche parce que je suis pécheur. Ça commence à faire du sens, non ? Et là, on va peut-être se remettre en cause. Parce que si on comprend ça, mes amis, on n'a pas compris encore tout le message, mais on a fait un pas. J'ai oublié ce matin sur mon bureau, j'ai hérité de la montre de mon grand-père. Même si je crois que c'est celle de mon arrière-grand-père. Vous savez, les goussets, là, les machins ronds là, qu'on mettait dans la poche. Bien sûr, elle ne marche plus depuis bien des années. Alors on me dit, mais Jean-Claude, t'as qu'à la remonter. Mais non, ça ne sert à rien de la remonter. Mais Jean-Claude, faudrait peut-être changer la pile. Il n'y avait pas de pile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? La jeter ? Ah non, c'est un souvenir de famille. La meilleure des choses à faire, c'est de l'amener à l'horloger. Pour qu'il la nettoie. Pour qu'il s'occupe de l'intérieur. Vous voyez l'image ? Pour qu'il s'occupe de l'intérieur. On a beau nous remonter, nous nettoyer, nous façader, nous pomponner pour les dames. Ça change rien à l'intérieur. La lèpre avait ce facteur supplémentaire qu'elle n'était pas une maladie simplement de l'intérieur, mais qu'elle se montrait à l'extérieur. Et qu'est-ce qui montre notre péché à l'extérieur ? Ce sont nos actions, nos mots, nos paroles, nos réactions. Ça nous montre l'état du cœur dedans. Mais notre cœur, il est mauvais s'il n'a pas été changé par Christ. Nous avons besoin des correctifs, des changements, pas quelque chose d'externe. La lèpre commence petit, puis elle se propage, dit Lévitique 13:7. Elle se propage. Dès que le lépreux voit une petite tache blanche sur sa peau, un jour, faut pas attendre très longtemps pour qu'il y en ait d'autres et que sa chair soit consumée, voire répugnante. Dans 2 Samuel 11, on trouve Monsieur David. Vous savez, ce futur grand roi en train de feignanter. On dirait dans un langage courant, en train de mater ce qui se passe autour de lui. Et là, il mate drôlement puisqu'il voit une femme là qui prend son bain. Évidemment, elle n'est pas très habillée pour prendre son bain. Et il se dit, tiens, on pourrait peut-être faire une affaire. Et on sait ce qui se passe. Le péché, lorsqu'il rentre dans notre vie, il fait des dégâts. Il divise, il écarte, il anéantit, il fait du mal. Et on a du mal à l'arrêter. La lèpre, les versets 44 à 46 de Lévitique 13, je ne les lis pas, mais vous les lirez, la lèpre souille tout ce qu'elle touche. Le péché affecte et dégrade tout ce qui nous entoure. Quand un homme a été frappé par la lèpre, nous avons été totalement et complètement souillés. C'est donc pareil pour le péché. Il empoisonne. Notez ça. Le péché, ce n'est pas juste cette petite banalité qu'on fait. Vous savez, cette semaine, je parlais à quelqu'un, il me dit « Ah oui, mais les 7 péchés capitaux !» Je dis « Moi, j'en connais plein d'autres qui sont aussi capitaux. » Ou aussi capital, je ne sais pas si on utilise quel temps. Mais aussi mauvais. Le mensonge, tout le monde l'utilise. C'est un petit péché. La tricherie, c'est un petit péché. Dieu, il ne fait pas exactement le même. Elle souille. Elle affecte nos relations. Elle affecte notre condition. Elle affecte ce que nous sommes, des représentants de Dieu. Elle va dévaster, ruiner tout ce qu'elle touche. Demandez à Achan, vous savez qui c'est Achan ? Si un peu d'or, d'argent et un vêtement valaient la vie de sa famille. Demandez à David si ses instants voler à une autre femme valait la dévastation et les calamités qui ont suivi et la mort de son premier enfant. La lèpre, le péché, isole. Le lépreux, c'est le verset 46 de Lévitique 13 qui dit, a été isolé dans le camp de l'assainissement. Il a été contraint d'habiter seul, en marge de la société. Son isolement est fatal. Et le péché nous isole de la communion avec les autres. Elle sépare les familles. Et elle sépare le pécheur de Dieu. Mais dernièrement, et notez bien, au moins sur ce point, que la lèpre destine toute chose au feu. Verset 52, elle destine toute chose pour l'enfer. Ce que le lépreux a touché doit être brûlé, anéanti. C'est pareil pour le péché, mes amis. Il doit être brûlé. Il destine les personnes touchées par ces derniers incendies au tourment éternel. C'est le psaume 9:17 qui le dit. Au tourment. Vous savez ce que c'est que d'être tourmenté ? C'est le prix du péché. Il est facile de voir pourquoi la lèpre était une grosse affaire, pourquoi Ebola est une grosse affaire, pourquoi toutes les épidémies sont des grosses affaires. Mais si on soigne juste la conséquence, on ne soigne pas l'origine. Et l'origine du péché, c'est l'homme, c'est le cœur. On peut empêcher que Ebola se répande et sacrifier ceux qui l'ont. On peut empêcher les gens de contaminer les autres. Mais on ne peut pas empêcher que cette gangrène continue. L'horreur du péché devrait nous faire peur. Associez-la de temps en temps à la lèpre. Quand vous êtes tenté de pécher, de vous dire, mais ouh, il y a la lèpre qui se développe. Il faudrait l'arrêter avant qu'elle ne se répande. Voilà donc la condition de cet homme. Il est lépreux. Et là, si sa vie a été dévastée, il s'est réveillé un matin et il a dit, je vais aller voir Jésus. Il a certainement entendu que Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Il avait même chassé des démons. Peut-être, pour la première fois, quelque part, s'est réveillé un espoir. Mais alors, lui, il pourrait me guérir. La plupart des gens pense que le péché vient de Dieu. Si le péché est là, c'est forcément Dieu qui l'a créé. C'est bien lui qui a créé le diable. Donc il est initiateur du péché. Mes amis, il faut lire. Le diable, il l'a créé. Mais il s'appelait qui ? C'était un ange de lumière. C'était quelqu'un qui le louait. Waouh ! Et il a changé. Il s'est enorgueilli. Et là, il a attiré des foules avec lui. Des anges et des anges pour l'accompagner dans son délire. Imaginez-vous la scène. Des gens qui suivent Jésus, Jésus enseigne. Tout est bien. Et d'un seul coup, il y a un lépreux là qui traverse la foule. Ouh ! C'est qui lui ? Ouh là là, mais il n'a pas le droit d'être là. Ah non, non, il n'a pas le droit. Oh là là, chassez-le. C'est comme ça que la foule a réagi, mes amis. C'est comme ça qu'on réagit quand un pécheur rentre. Oh, mais lui. Oh, elle, oh là là, pas ici. Va des rétros, Satanas. Non ? Je paraphrase ? J'exagère ? Non. C'est ce qu'on notre réaction. Oh, mais lui, ah, si tu connaissais sa vie, mais il ne peut pas être là. Mais le lépreux, il n'avait pas le droit d'être là. Le lépreux, il devait être ailleurs, isolé, va foutu, mort, il va mourir dans ton coin, là. Et c'est pour ça que Jésus, il est mort à la croix, mes amis. C'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est pour ça que moi, il m'a sorti des bistrots, il m'a sorti de mon... d'où j'étais. Parce que quelqu'un est venu me chercher. Et ce quelqu'un, c'est lui. J'avais la lèpre. J'étais isolé. Pas de rapports sociaux. Mes seuls copains qui tenaient le comptoir avec moi au bistrot. Et on le tenait bien. On était sûr qu'il ne s'écroulait pas. Nous, on s'écroulait, mais pas le bistrot. Et là, regardez bien. Il fait fi de tout ce qui se passe. Il n'écoute plus. De toute façon, il n'a plus de sensibilité, le lépreux. Et là, il va devant Jésus et il s'incline. Il reconnaît. Seigneur, je ne dois pas être là. Seigneur, je n'ai rien à faire là. Et en plus, je mérite totalement ce que j'ai fait. Ces paroles indiquent un désir d'être libéré. Déclare sa foi dans son incapacité à s'en sortir et sa croyance que Dieu peut le délivrer. Ses paroles révèlent son propre sentiment d'indignité. C'est ce qui se passe dans le cœur du pécheur, n'est-ce pas ? Le jour où Dieu nous arrête, Dieu nous interpelle, Dieu nous révèle, Dieu nous montre l'étendue des dégâts. Dieu met dans notre cœur ce désir d'être libre du péché, d'être libéré non seulement de la conséquence du péché, mais que Dieu éradique en nous cette nature pécheresse, que Dieu produise dans nos cœurs une foi dans la capacité que Jésus peut sauver mon âme. Cette foi, c'est un don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est un don de Dieu. Une grâce. Mes amis, de grâce, invitons des pécheurs. Exposons-leur la parole de Dieu, pas en les jugeant, mais en leur exposant la parole. Et en demandant au Saint-Esprit, révèle-leur, Seigneur, leur état. Ce lépreux a atteint le seul endroit où il sait que quelque chose d'incroyable peut arriver. Offrir sa maladie. Luc 5, 12 nous rappelle ces choses-là. Il a besoin d'une intervention. Mes amis, si votre vie a été détruite par le péché, ou si elle est en train d'être détruite par le péché, et que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à en sortir, le seul endroit, le seul moyen, c'est de s'approcher de Jésus. Le seul moyen, c'est d'entendre la parole de Dieu. Et si le seul moyen que vous avez d'entendre la parole de Dieu, c'est de venir dans ces locaux, venez, mes amis, et invitez les autres à venir écouter la parole. C'est que comme ça qu'on pourra être sauvé. C'est ce seul moyen. Des gens qui vont nous voir dans la rue, des gens qui vont nous interpeller, nos amis. Mais si nous ne le faisons pas, nous qui sommes guéris. Alors il va se passer quelque chose, versets 41-42. La compassion du Seigneur Jésus. Alors que la foule le regarde, ce lépreux s'incline, demande un miracle. Jésus, ah non, pas lui. Ah non, attends, t'as vu comment il est? Mais il le mérite, hein. Ah bah alors là, s'il y a bien quelqu'un qui mérite, ah bah alors là, c'est bien lui, hein. Bien, si tu sais le mal qu'il m'a fait à moi. Alors là, si tu le guéris, lui, alors là... On exhorte à la lapidation, à la mort. Mais Jésus fait l'impensable. Il guérit. Il guérit. Qu'est-ce qui est révélé? Ça fait peut-être des années que cet homme, il est peut-être dans sa 9e année, on ne sait pas, que cet homme n'a pas été touché, ne serait-ce que touché, sentir que quelqu'un lui met la main. Depuis qu'on a identifié sa lèpre, plus personne ne le touche. Il n'a plus le droit de toucher sa femme, ses enfants, ses amis, et il n'a pas le droit d'être touché. Et là, Jésus, premier geste, il met sa main sur lui. Waouh ! Quelqu'un m'a touché ! Vous imaginez ? Il vous est déjà arrivé de ne pas faire quelque chose pendant très, très, quelque chose de bien, hein, j'entends ? Pendant des années, et le jour où vous le faites, ça me rappelle un truc, ça. Non ? Je ne sais pas ce qu'attendait le lépreux, mais certainement n'est pas d'être touché. Pensez peut-être que Jésus allait se reculer et dire, bon, tu sais, je peux te guérir à distance. Tu sais, on aurait pu faire ça par Skype, hein ? C'était très bien, hein ? Par Messenger, ça marche très bien aussi. Facebook. Non, Jésus, il l'a fait. En direct. Voyez, et là, la foule aussi, encore. Ouh ! Mais Jésus, fais gaffe, hein ! Tu vas être contaminé. Tu vas tomber malade. Tu vas mourir. Ça y est, t'es condamné à mort. Jésus, l'homme sans péché, l'homme qui a été payé nos fautes, il a offert à ce lépreux la délivrance. Jésus nous touche aujourd'hui. Il touche nos cœurs. Il touche notre âme. Il fait la différence. Ce que vous avez fait, ce que nous avons fait, n'est pas trop mauvais pour que Dieu nous touche. Est-ce que vous avez ce sentiment un jour que Dieu a touché votre cœur, a touché votre corps, qu'il vous a renouvelé, changé, transformé?
Le Seigneur est venu dans notre enfer pour nous ramener à la vie. Le Seigneur a atteint la chose la plus mauvaise pour que quelque part nous soyons guéris.
Et dès qu'il le touche, qu'est-ce qui se passe ? Il devient pur. La lèpre s'écarte instantanément de sa peau. Elle devient fraîche comme un bébé. Il est littéralement né de nouveau. Il est donné une nouvelle vie. Il peut retourner vers ses proches. Il peut rejoindre la société. Tout a changé parce que Jésus l'a touché.
C'est ce qui se passe spirituellement, mes amis.
Lorsqu'un pécheur sent que Dieu le touche, l'arrête, alors quelque chose de nouveau se passe. Instantanément, la noirceur, la torpeur est remplacée par la vie et par la gloire de Dieu. Le pécheur n'est donc plus perdu, mais il est trouvé, sauvé, bravo. Il n'est plus mort, mais il est vivant. Oh. Il n'est plus un paria, un exclu. Il fait partie des enfants de Dieu.
Mon ami, si tu es perdu, si là ce matin tu te dis, mais j'ai trop fait, Jésus dit, j'ai payé pour ça aussi.
Si on réfléchit à la loi, et je vais vite parce que l'heure passe, et je suis désolé. La loi exigeait que ce lépreux aille se présenter devant le prêtre afin d'obtenir, j'ai marqué, un certificat de nettoyage. Certificat de garantie. Lévitique 14, il est dit que le lépreux devait venir vers le prêtre et le prêtre devait aller à l'extérieur du camp où le lépreux était. C'est-à-dire que le lépreux n'allait pas vers le prêtre, mais le prêtre venait le voir lui, là où il était. Le prêtre doit aller aider le lépreux à comprendre la place de la purification. Le lépreux ne pouvait pas aller là où le prêtre était, bien au contraire, le prêtre devait sortir. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Quand nous ne pouvions pas aller au ciel où Jésus était, Jésus est venu ici-bas, où nous sommes. La Bible dit dans Hébreux 13 que Jésus a souffert hors des portes, que Jésus est descendu, que Jésus s'est approché. Et puis, ce prêtre devait prendre un vase rempli d'eau, il devait prendre deux oiseaux, tuer un. Et avec le sang, asperger l'aile de l'autre et rendre sa liberté à l'autre. Et pendant que le sang tombait, alors celui qui était exclu était considéré comme guéri. Waouh, quelle image! C'est ce que Jésus a fait. Vous voyez? C'est ce que Jésus a fait à la croix. Son sang a coulé. Et son sang nous a purifiés. Dieu respecte tout ce qu'il écrit dans sa Bible. Il n'y a rien de changé. Le lépreux peut déclarer « Je suis propre à cause du sang. » Ah. Il y a un seul élément qui peut nous purifier de nos péchés. Un seul élément qui peut vous purifier de vos péchés. C'est le sang de Christ. Mes péchés sont si profonds, Seigneur. Mon sang va beaucoup plus profond que ça, pourrait lui dire Jésus. Mes péchés sont allés trop loin.
Mon sang va beaucoup plus loin.
Mais Seigneur, mes péchés sont forts.
Mon sang est tellement fort. Nous avons des arguments parce que nous craignons ce qui va se passer. Le lépreux, il est venu chercher quoi ? La guérison.
Il ne savait pas comment Jésus allait le faire. Et certainement, il a été très surpris. Très surpris que Jésus le touche.
Parce que j'imagine, vu les odeurs, vu la description, à mon avis, il devait avoir de la place dans le train, comme on dit. Hein. Il ne devait pas être serré de près, le lépreux. Si Jésus l'était, le lépreux, lui, il devait avoir de la place. Et une chose qui était importante, et que j'aimerais signaler, quand le lépreux allait se présenter, rencontrer le prêtre, et que le prêtre le déclarait pur, alors il y avait quelque chose qui se passait, c'est qu'il devait faire une publication. Publier qu'il était guéri, parce que là, il avait le certificat, il pouvait retourner voir les autres. Et nous, vous savez, les amis, on prend plein de décisions, et dimanche après dimanche, on prend des décisions ici, dans cette église. Et amen. Mais on les prend en privé. Ça me regarde, moi et Dieu. Moi et Dieu. Donc je ne vais pas, surtout pas publier que je suis propre. Je ne vais surtout pas publier que je suis guéri. Je vais garder ça bien dans mon cœur, à moi. Je vais en parler à personne. Je vais faire ce que l'État me demande, de garder ça pour moi, ma chambre haute, là, vous savez, quand je monte dans ma chambre. Seigneur, je suis guéri. Je suis tellement content. C'est ce qui vous arrive quand vous êtes guéri. Quand vous allez bien, vous ne sortez pas vers les amis. Ça y est, j'ai plus la quarantaine. Je suis plus contaminant. C'est ça la délivrance que Jésus fait dans nos vies. C'est de publier. Oui, ça y est. Oui, ça y est, je fais partie de ta famille. Oui, ça y est, je peux te prendre dans mes bras. Oui, ça y est, je suis ton frère, je suis ta sœur. J'ai le même père que toi. Oh. Et on le cache. Mais c'était comme ça qu'il devait faire publier l'affaire, le révéler. Qu'est-ce que notre presse nous signale ? Les mauvaises affaires. Tout ce qui, hein, les paparazzi vont chercher les bonnes affaires ? Non, que les mauvaises affaires. Nous, il n'y a pas de paparazzi dans la Bible. Il y a des paparavis. Des gens qui montrent, voilà ce que Jésus a fait. Et moi, et vous savez, en plus, ce qu'on rajoute dans l'article, on dit, et tout cela ne vient pas de moi, c'est Jésus qui l'a fait. Oui, vous avez raison tous de dire, je ne le méritais pas. Un homme de Dieu, il y a quelques mois, quelques années, je ne sais plus, il a rencontré des gens d'une église, et quand il a demandé le nom du pasteur, les gens ont dit, bah, c'est le pasteur un tel. Et le monsieur de réagir, ah, c'est pas possible, il n'est pas pasteur, lui. C'est pas possible! Avec sa vie d'avant! Ah ben non! Mon avis, il n'avait pas lu Paul encore. Il devait être encore dans l'Ancien Testament, mon avis. Quelle bénédiction sont les témoignages des saints! Témoignez bien haut! Vous savez ce que le diable, il n'aime pas? C'est qu'on parle de Jésus. Et qu'on dise, Seigneur, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a changé. Eh les amis, je ne suis pas parfait, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. On est en famille, comme disait Linda vendredi. Je ne suis pas parfait. Je ne pense pas que quelqu'un dans cette salle le soit. Mais il y a une chose que Jésus fait, c'est qu'il nous change. Il nous transforme. Il fait de nous ses enfants. Co-héritiers de Jésus-Christ. Il nous donne le même héritage que son fils. Ça vaut pas le coup d'en parler. Ça vaut pas le coup d'inviter. Et les gars, il y a une grande richesse, faut venir. Hein. Quelle bénédiction. Alors, mes amis, je conclue. Est-ce que dans la salle, nous avons des lépreux ? Est-ce que hors de cette salle, nous avons mis des gens à l'écart ? Est-ce qu'il y a dans cette salle des gens malades ? Non pas malades dans notre sens, mais malades et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de l'aide de Jésus pour se libérer, parce qu'on n'y arrive pas tout seul, parce qu'on a tout essayé avant, et on s'est cassé la figure, et on a été découragé, et on a été rejeté, on a été incompris, et on est devenu insensible à la douleur, au péché, aux remarques. Vous savez quelque chose, c'est que Jésus est toujours le chef d'entreprise qui change les vies. Le chef de l'entreprise qui change les vies. S'il a touché mon cœur, s'il a touché votre cœur. Alors ce matin, vous devez savoir que vous n'avez plus besoin de pécher une seule minute de plus. Une seule fraction de seconde. Aujourd'hui, là, instantanément, comme Jésus avec le lépreux, vous pouvez être guéri. Mais alors il faut s'approcher de Jésus-Christ, s'incliner devant lui, et alors se lever et de dire, voilà, Jésus, il a touché mon cœur. La maladie disparaît. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, dit l'Écriture. Ce jour qui peut être le jour de transformation de votre vie. Ce jour qui fait de vous un être nouveau, un être qui change de direction et qui sur ces planètes devient lumière, sel. Si Dieu vous appelle aujourd'hui, alors faut pas attendre. Si vous dites, oh mais c'est juste quelques tâches. Oui, je discerne bien, il y a quelques petites bricoles. Ça va vous tuer. C'est une maladie mortelle. Alors on va juste incliner nos têtes, comme on le fait chaque dimanche. Parce que c'est important de le faire. Et là, on va se mettre devant Dieu en disant, Seigneur, c'est vrai, j'ai remarqué ces taches blanches, ces péchés. Oh, c'est des petits mensonges, Seigneur. C'est pas grave. Je dis des méchancetés de temps en temps sur les uns et les autres. C'est pas très grave. Ça leur fait du mal, c'est vrai. Mais ça m'envoie quand même pas en enfer. Seigneur, je pêche de telle ou telle autre manière. Seigneur, mes pensées ne sont pas pures. Seigneur, il y a des mauvaises habitudes, j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est pas possible. Alors Seigneur, aujourd'hui, là, comme ce lépreux, Seigneur, comme ce lépreux, je veux traverser la foule. Et là, je veux venir devant toi. Je veux venir devant toi. Parce qu'il n'y a que toi qui peux me guérir. Et toi, tu as la parole de la vie. Et là, mes amis, ce matin, je ne vais pas vous demander juste de lever la main. Mais je voudrais que, comme ce lépreux, s'il y a quelqu'un dans cette salle, un jeune, un moins jeune, un homme, une femme, qui sent que Dieu aujourd'hui l'appelle, qui a touché son cœur, qui l'a délivré, alors la meilleure des choses, c'est de le publier, de lui rendre honneur à lui. À lui. Pas à vous, pas à moi, pas à l'église évangélique Le Phare, mais à Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a été touché dans son cœur? Quelqu'un qui aimerait prendre cette main que Jésus lui tend? Cette main qui guérit. Cette main qui sauve. Oui, levez-vous, mon frère. Dieu le fait publiquement. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui aimerait être identifié comme quelqu'un qui est enfant de Dieu? Quelqu'un qui veut rentrer dans la famille de Jésus-Christ? Parce que Jésus a déjà tout payé. Eh bien, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin parce qu'une vie, est venue à toi. Parce que, Seigneur, tu as sorti de là où il était. Tu connais exactement son péché, sa faute, son problème. Et tu ne nous donnes pas des yeux à nous pour le juger. Mais au contraire, pour acclamer ce que toi, tu vas être capable de faire dans sa vie. Comment tu vas changer, Seigneur? Comment tu vas le transformer? Et comment tu vas faire de nous des soutiens, des encourageurs, des hommes et des femmes qui vont l'assister, l'accompagner, parce qu'il fait partie de notre famille. Sois béni, Jésus, parce que tu es ce Dieu trois fois saint, ce Dieu qui encore aujourd'hui touche et change les vies. Amen. On peut applaudir ce que Dieu fait. Amen.